petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie.
Chacun pour soi et Dieu pour tous. Ce proverbe exprime l'égoïsme, l'individualisme et la volonté de puissance qui domine la géopolitique, la politique nationale et empoisonne les rapports entre les personnes au quotidien. Ce proverbe est même aujourd'hui dépassé, c'est plutôt chacun pour soi et Dieu aussi pour soi. Dans son officiel texte intitulé « Stratégie de sécurité nationale », publié en décembre 2025, le gouvernement américain n'hésite pas à s'accaparer Dieu en parlant, je cite, de droits naturels donnés par Dieu aux citoyens américains. Les Américains seraient le peuple élu de Dieu et les droits ne seraient plus les droits de l'homme universel, mais les droits propres aux citoyens américains. Que devient alors la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU, promulguée en 1948, pour remplacer le droit de la force par la force du droit? Mise à la poubelle de l'histoire, cette Déclaration des droits de l'homme. Les droits de l'homme seraient des carcans juridiques qui paralyseraient la liberté d'action des hommes efficaces. Aujourd'hui, 75% de l'humanité vit sous des régimes autoritaires qui glorifient la puissance et le pouvoir. L'idéologue de la présidence des USA, Stephen Miller, l'exprime sans complexe en janvier 2026. Je le cite. On a beau parler de subtilité internationale, reconnaissons que nous vivons dans un monde réel, régi par la puissance qui est régie par le pouvoir. La messe est dite, c'est celle du diable. En fait, 2026 exacerbe cette idéologie des régimes autoritaires. Mais il y a toujours eu, dans le passé, une contradiction entre l'aspiration politique à la liberté et l'aspiration politique à la justice et à l'égalité. Les régimes dits illibéraux, comme en Hongrie ou aux USA, sont autoritaires, mais paradoxalement, disent-ils, ces régimes, ils sont autoritaires pour défendre la liberté. Passer outre les contraintes juridiques et environnementales pour aller plus vite de l'avant scientifiquement et économiquement. Or, depuis toujours, quand on veut promouvoir la liberté politique, économique et culturelle, eh bien, les plus forts, les plus habiles et les plus coquins vont peu à peu écraser et exploiter les moins compétitifs. D'où les inégalités douloureuses entraînées par le capitalisme, chantre de la liberté. Réciproquement, quand on veut garantir la justice et l'égalité, la loi doit contraindre, doit limiter les libertés des dominateurs potentiels. D'où ce que Marx appelle la dictature du prolétariat, étape qui doit succéder à la révolution proprement dite. L'Église, qui a joué et joue un rôle civilisateur, approuve partiellement le capitalisme et le marxisme et condamne partiellement le capitalisme et le marxisme. L'État doit jouer un rôle de législateur de justice sociale, de générateur d'égalité qui ne permet pas la liberté quasi absolue de l'ultralibéralisme. Déjà en 1848, avec la naissance de la Deuxième République, le célèbre père Lacordaire, lors de la 52e conférence de Notre-Dame, proclamait fort justement ce paradoxe, je le cite, « Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui libère. » Fin de citation. Mais à vouloir trop contraindre étouffe la dynamique économique et concentre tout le pouvoir dans l'État, seul investisseur à la place des libres entreprises capitalistes. La dictature du prolétariat se renforce alors sans jamais aboutir à un retrait de l'État. C'est pourquoi l'Église invite vivement au partage, mais s'oppose à la lutte des classes, tout en prônant la primauté du travail sur le capital, j'insiste, l'Église promeut la primauté du travail sur le capital, comme par exemple dans Laborem exercens, c'est une encyclique de Jean-Paul II en 1981, chapitre 12, verset alinéa 24. Mais le capitalisme sans frein ni contre-pouvoir est aussi refusé par l'Évangile. Il est plus facile, dit l'Évangile, dit le Christ, il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est dans le chapitre 19 de l'Évangile de Matthieu, verset 24. Cependant, le Christ n'hésite pas à réprimander le serviteur qui a gardé enfoui l'argent confié par son maître au lieu de le faire fructifier en banque. C'est bien l'économie de marché ici qui sert de comparaison dans la parabole du Christ. Je cite l'Évangile, je cite le Christ, « Il te fallait remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est rendu par un intérêt. » C'est donc dans Matthieu 25, chapitre 25, versets 14 à 30. Alors oui, oui ou non le libéralisme et l'illibéralisme ? Alors oui ou non le marxisme et ses variantes ? Ou bien encore, mélange subtil de deux philosophies politiques contradictoires ? Eh bien non, la doctrine sociale de l'Église n'est pas un mélange des contraires. C'est une toute autre philosophie. Celle de l'amour, celle de la fraternité, troisième valeur de la devise républicaine. Seule la fraternité peut réconcilier la liberté et l'égalité. En effet, la fraternité est la libre, le libre consentement de chacun à l'égalité de tous. Fraternité, c'est le libre consentement de chacun à l'égalité de tous. Liberté, car la fraternité ne procède pas d'une obligation juridique reçue. L'amour social, la charité, nous incline de l'intérieur à nous départir de l'injustice sociale. La fraternité est d'essence spirituelle. Prenons l'exemple de la solidarité, qui est une application possible de la fraternité. Malgré la dominante « chacun pour soi et Dieu pour tous », il y a de beaux exemples de solidarité. le matérialisme marxiste a tenté de récupérer cette valeur de solidarité. Le matérialisme, pour Marx, ramène toute idée sociale, toute valeur. Eh bien, il ramène ces valeurs au déterminisme de classe. Que nous soyons bourgeois ou prolétaires. Pour lui, je le cite, « Ce ne sont pas les consciences qui déterminent la vie des hommes, c'est inversement la vie sociale qui détermine leur conscience. » Et oui, ainsi les bourgeois sont concurrents, sont en concurrence entre eux, et non pas solidaires. C'est leur situation sociale, c'est leur intérêt de classe qui détermine les bourgeois dans leur choix prioritaire des libertés et profits individuels. De même, le prolétaire, s'il porte seul sa revendication de justice, eh bien, ce prolétaire sera éconduit par la classe dirigeante. Mais si tous les ouvriers, solidairement, font grève, alors ils pèsent lourd et efficacement face au patronat. La solidarité ne serait donc pas d'essence spirituelle, elle serait liée aux intérêts de classe des luttes prolétariennes. Eh bien, ce n'est pas la conception chrétienne, même si l'analyse de Marx n'est pas totalement fausse. Il y a souvent, fort heureusement, dans l'acte de solidarité, un geste gratuit qui n'est pas motivé par les intérêts. Au contraire, la solidarité implique de sortir de soi pour se tourner vers les autres, un renoncement à l'égocentrisme pour écouter ceux qui ont besoin d'aide pour s'en sentir solidaire. Ou aussi, pour s'entraider sans chercher à ne sauver que soi. C'est un geste spirituel, d'amour social, de don de soi. C'est ainsi que le Christ s'est rendu solidaire de toute l'humanité, c'est ainsi que la fraternité est universelle, et non point constitutive de fratrie, constitutive de clans, en guerre les uns contre les autres. Nous avons un même Père, le même Père divin, qui engendre notre fraternité universelle. Le chacun pour soi se convertira en chacun pour l'autre et pour tous. Espérance de longue haleine.
C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.